Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN, en direct du théâtre de la Manufacture de Nancy.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière soirée de la semaine au Théâtre de la Manufacture à Nancy. C'est la dernière soirée de NJP 2024, une belle soirée en perspective, puisque nous attendons ici même au Théâtre de la Manufacture le quartet du contrebassiste Diego Humbert et le trio du pianiste Marc Prior. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie, pour commencer cette émission, et bien de Diego Humbert lui-même. Bonsoir.
Bonsoir.
Diego Humbert, c'est pas la première fois que vous venez à Nancy. Hein.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Hein. Oui. Mais ça fait un petit moment qu'on vous a pas vu.
Je crois que je suis venu il y a 2 ans.
Il y a 2 ans.
Au même endroit, à la Hôtel de la Manufacture, oui. Avec Alain Jean-Marie.
Avec Alain, effectivement. Avec Alain Jean-Marie. Alors ce soir, vous venez avec votre quartet.
Tout à fait.
Quartet. Alors, c'est un quartet qui est... Bon, on connaissait votre quartet. Il y avait eu en particulier un très bel album appelé Colors qui date de maintenant une dizaine d'années. Hein.
2015, il me semble.
Ouais. Ah, oui. Et puis, plus de quartet.
Non, alors en fait, ce groupe existe depuis 2009. Et donc après plusieurs albums, donc dont le dernier, donc le dernier en date avant celui-là en 2015, qui s'appelait Colors. Oui. Après j'ai fait d'autres collaborations, oui. En particulier oui. avec.
Ah, vous n'avez pas été inactif.
Ah non, pas du tout. Pas du tout.
Et alors retour du quartet. Nous accueillons à l'instant Franck Aguilon. Bonsoir.
Bonsoir.
Le batteur du quartet.
Voilà.
Bon, vous avez l'habitude de travailler ensemble depuis longtemps. Hein.
Oui, on s'est connus à Nancy il y a une trentaine d'années, non peut-être.
Donc retour du quartet après 10 ans d'absence.
Oui.
Un seul changement, je crois que c'est le trompettiste.
Tout à fait, parce qu'en fait, donc le trompettiste qui était dans la première, dans le premier quartet, est parti vivre en Thaïlande.
Oui, c'est un peu loin pour donc venir à Nancy.
C'est un petit peu loin pour.
Donc, il a été remplacé par un autre trompettiste de talent,
par Quentin Gomary.
Alors, pour commencer, je propose qu'on entende quelques instants dans un extrait de votre du quartet précédent, Colors. Et je propose si ça vous va, on va écouter un petit peu Blue Galou.
D'accord. Thank you.
Donc c'est un extrait Blue Galou de cet album de 2018.
Non, 2015.
Cet album Colors, très bel album. Alors pourquoi cette interruption de 10 ans?
Parce que c'est pas quelque chose qui est absolument. Enfin, j'ai pas de plan de carrière, c'est pas réfléchi, c'est au fil des rencontres, des collaborations. Donc en 2017, j'ai entamé deux nouveaux projets, donc un projet qui s'appelait Urban, dans lequel je jouais de la basse électrique. Avec le quartet qui était augmenté d'un Fender Rhodes, donc Pierre-Alain Gualch, et d'un trombone et d'un sax alto. Donc au trombone, il y avait Bastien Ballaz, et au sax alto, il y avait donc Pierrick Pedron, avec toujours David Elmalek et Quentin Gomary, parce qu'Alexandre était déjà parti. Et puis, donc, il fallait faire un petit peu vivre ce disque. Et en parallèle, j'ai aussi fait un disque en hommage à Charlie Haddon, que j'ai eu la chance de pouvoir présenter au NJP Salle Poirel. En je ne sais plus quelle année, en 2018 ou 2019.
Je me souviens de ça, effectivement, oui.
Et puis après, j'ai enchaîné les collaborations aussi avec André Secarelli, avec Alain Jean-Marie.
Oui, donc, l'hommage à Bill Evans.
Voilà, l'hommage à Bill Evans. J'ai aussi fait un hommage à Django. Bon, beaucoup d'hommages.
Oui,
enfin... Et au bout d'un moment, c'est bien de revenir à une musique...
Et donc on revient au quartet, avec des amis fidèles, apparemment.
Oui, oui, tout à fait.
Oui.
Formidable musicien.
N'est-ce pas?
Tout à fait, tout à fait.
Mais, alors, j'ai envie de vous poser une question. Le quartet sans piano, bon, alors sans remonter à Jerry Mulligan avec Chet Baker, moi je pense tout de suite à Ornette Coleman avec Don Cherry. C'est une référence, j'imagine.
Bien sûr.
Oui.
Évidemment. Je me suis rendu compte aussi au fil du temps que j'avais beaucoup de similitudes, en tout cas dans les choix que Charlie Haddon.
Oui.
D'une part, il y a le quartet... d'Ornette Coleman, et après les duos.
Oui.
Charlie Haddon cultivait beaucoup les duos, et voilà, c'était aussi un peu ça.
Il y a un fil conducteur, finalement, dans toute votre histoire. Charlie Haddon, auquel vous avez rendu hommage, qui était dans ce quartet avec Ornette Coleman.
Oui, tout à fait.
Oui. Donc, reconstitution, ça fait combien de temps qu'il a été reconstitué, ce quartet, alors?
Le disque est sorti l'année dernière.
Oui.
Et donc, il a été reconstitué... il n'a jamais vraiment été dissous, mais disons qu'il n'y avait pas de concert.
Oui.
Donc, mais il a été reformé, en tout cas on s'est retrouvé pour répéter, enregistrer la musique 8 mois avant, ou un an avant à peu près, un petit peu avant.
Alors on va écouter encore quelques instants maintenant de ce quartet actuel, avec donc toujours David Elmalek au saxophone. Ouais. Franck Agulon à la batterie, et puis ce trompettiste Quentin Gomary, mais qui est pas nouveau dans votre histoire, vous venez de le dire.
Oui, hein, tout à fait.
Alors j'ai choisi un titre pour faire le lien avec l'album précédent, il s'appelle Couleur. c'était le début de Couleur. Ça vient donc de ce nouvel album, enfin de ce récent album s'appelle Le Temps Suspendu. Alors avant qu'on revienne au titre de l'album, Le Temps Suspendu, parce que je pense qu'il y a des choses à dire à ce sujet-là, je voudrais revenir sur l'idée du quartet sans pianiste. Alors vous qui avez l'habitude de travailler, on vous l'avait déjà cité, vous avez travaillé avec des pianistes.
Des guitaristes. Mais
à propos de pianiste, qu'est-ce que ça change de ne pas avoir de pianiste dans un quartet ?
Ça libère de l'espace à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a deux points harmoniques qui sont faits par le saxophone et la trompette. Et un troisième point plus bas, donc dans la tessiture qui est la contrebasse. Et au milieu, il y a beaucoup d'espace qui n'est pas rempli par un instrument harmonique comme la guitare ou le piano. Et en fait, ça laisse, il y a une résonance dans l'espace qui fait que on peut imaginer toutes sortes de choses. Et ça, à mon sens, augmente la liberté.
Oui. Qu'est-ce qu'en pense le batteur ?
C'est une formule où l'interaction, on va dire l'interplay entre les musiciens est différente avec un piano. Donc ça rejoint ce que dit Diego, il y a plus d'espace et ça permet des directions plus ouvertes qu'avec un piano qui va cadrer un petit peu plus harmoniquement, évidemment. Mais la formule sans piano est une formule où il y a plus de liberté. On l'a déjà expérimenté avec Diego, avec Sylvain Boeuf en trio, il y a 25 ans de ça. Et là, avec deux soufflants, on a quand même des fois des moments où on entend de l'harmonie à tous les trois, mais si jamais on se retrouve à jouer à trois ou à deux, il y a beaucoup plus d'espace. Donc c'est vraiment une formule intéressante.
C'est une formule intéressante. Bon, qui a donné, on parlait d'Ornette Coleman tout à l'heure. Bon,
c'est une formule connue.
Qui a fait ses preuves, hein, bien entendu. Alors, j'ai dit, l'album s'appelle Le Temps Suspendu. C'est pas sans raison, puisque tout ça tourne autour de la lecture ou de la relecture de la recherche du temps perdu de Marcel
Proust.
Tout à fait.
En fait, c'est pendant les confinements.
Oui.
Surtout pendant le premier confinement où on met un petit peu à exécution tout ce qu'on a procrastiné pendant des années. Et la recherche du temps perdu, je me suis replongé dedans.
Oui.
Malheureusement, les confinements n'ont pas été assez longs pour que j'arrive au bout. Mais en tout cas, ça m'a inspiré toute l'écriture de ce disque.
Oui.
Et après, les titres sont en rapport aux images que la lecture me donnait.
Oui, alors comment ça se transcrit dans la musique, la lecture de Marcel Proust ?
C'est pas évident, hein ? C'est étrange, ça peut être évident pour certains, ça peut être abscon pour d'autres. Enfin, c'est vraiment... ça se traduit dans la manière où les deux soufflants, justement, interagissent et dialoguent de manière à essayer d'avoir un discours enchevêtré avec un peu comme dans l'écriture de Marcel Proust, des grandes phrases avec un développement. C'est dans ce sens-là que je pense que ça peut se rejoindre. Après, chacun entend une musique différente en lisant la même chose. Donc ça, c'est de la musique que moi, j'ai entendue.
Oui, que vous avez entendu, mais il y a rien là qui colle au texte de Proust. C'est pas une illustration sonore de Proust.
Chacun peut faire une illustration différente.
Oui, oui.
Puisque c'est vraiment une création à partir d'une inspiration qui passe par notre filtre, qui est l'être humain et l'artiste que nous sommes chacun.
Oui. Oh, c'est audacieux de se lancer dans un projet à propos de Marcel Proust.
Oui, un peu périlleux.
Oui, n'est-ce pas ?
Mais pour chaque disque créé, il faut l'associer à une idée. Et Diego a mélangé Marcel Proust et la musique, ça aurait pu être autre chose, mais il faut quelque chose qui illustre le disque aussi. Et donc, chaque fois, c'est lié au voyage, une fois pour un des disques précédents, à des paysages ou à des voyages. Enfin voilà, donc chaque disque aussi illustre à un moment donné quelque chose dans la vie de l'artiste et de Diego à ce moment-là.
Oui. Alors.
Et donc moi, je compose pour cette formation-là, parce que je l'ai en tête depuis longtemps. Donc après, je donne les partitions aux musiciens qui se les approprient et qui les rendent, qui les jouent à leur manière.
Oui. toutes les compositions sont de vous, contrebassiste.
Oui, tout à fait. Oui. Et toutes les compositions des trois disques précédents.
Comme les trois disques précédents.
Oui, tout à fait.
On les trouve encore, ces trois disques précédents ?
Je pense qu'on peut les trouver. En tout cas, on en trouve certains sur mon site. Mais en tout cas, on ne les trouve pas sur les plateformes.
Oui.
Parce qu'ils ne sont pas distribués numériquement.
Oui. Bon, c'est un parti pris.
Ça vient de la faillite de Harmonia Mundi.
Ben oui.
Enfin, en tout cas, c'était le label qui les a sortis au départ était le label Such Prod, qui était distribué par Harmonia Mundi. Et quand Harmonia Mundi a été racheté par Pias, donc le numérique n'était pas très développé encore à cette époque-là. Et quand Harmonia Mundi a été racheté par Pias, ben, ils ont fermé beaucoup de magasins et ils ont viré plein de petits labels, dont Such Prod. Donc voilà. Après, moi, je me suis restructuré en fondant mon label. Et au départ, j'ai pas mis mes disques sur les plateformes.
Donc, si on veut se les procurer, bah, il suffit d'aller sur votre site.
Voilà. Vous m'envoyez un mot, on peut le trouver facilement.
C'est pas plus compliqué que d'aller sur les plateformes. Hein.
Mais après, il y a certains disques qui sont épuisés.
Oui. Ah oui. Bon.
Je sais plus lequel, mais je crois que Colors est épuisé.
Oui.
Mais voilà. J'ai fait un coffret dans lequel il y a les trois disques
plus un autre disque. Alors, il n'est pas complètement, il n'est pas tout à fait épuisé. Alors, revenons à Marcel Proust. Donc, les titres sont évocateurs. On va pas les citer tous maintenant. On les entendra tout à l'heure pendant le concert. On a entendu Couleur. Il y en a que. Je peux pas manquer de passer celui de vous proposer d'écouter un peu de celui-là, c'est la Madeleine.
Oui.
Allez, la Madeleine. La Madeleine, alors la Madeleine de Proust, tout le monde ou presque connaît la Madeleine de Proust, mais y a-t-il une raison à cette Madeleine?
Oui, oui, en fait ce titre-là m'évoque un autre morceau, donc c'est pour ça que et évoque à beaucoup de, je pense, beaucoup de personnes un autre morceau de John Coltrane. En tout cas, la ligne de basse est quasiment la même.
Mmh. Ouais. Proust, Coltrane. Voilà. Bon, oui, beau patronage.
C'est pas mal, oui.
Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Parlons un peu des musiciens qui jouent avec vous ce soir. Alors, on a le plaisir d'accueillir Franck Agulon. Vous vous connaissez depuis longtemps. Vous êtes bien connu à Nancy. Oui. On a assez souvent l'occasion de vous entendre dans différents contextes. C'est à Nancy que vous avez fait connaissance.
Oui, tout à fait.
Oui.
Au CMCN à l'époque.
Au CMCN, oui. Ouais.
En 1992.
Donc Franck Agulon, ce quartet, mais aussi beaucoup, beaucoup d'autres activités.
Je joue avec Diego depuis cette période. On a joué. Diego fait partie un petit peu de mon chemin de vie musicale. Donc on a joué ensemble avec Pierre-Alain Gualch, avec Dalia Negra, avec Valérie Gracher, la chanteuse, oui. Avec Jean-Marie Viguier, avec Birelli Lagraine, avec. On a toujours joué ensemble dans Sylvain Boeuf. On a toujours joué ensemble dans pas mal de projets. On se suit de près depuis toutes ces années. Puis quand Diego a commencé l'aventure en quartet, j'ai été impliqué dès le premier album jusqu'à celui d'aujourd'hui, Le Temps Suspendu. Donc on se connaît vraiment, c'est la famille musicale.
Le Temps Suspendu, hein, oui. Le Temps Suspendu, bah, c'est bien, ça dure toujours, c'est bien, c'est formidable.
Voilà.
Oui. Alors les deux autres musiciens qui sont pas présents avec nous pour l'instant,
donc David Elmalek
au
saxophone, oui. Ténor,
oui.
Que on connaît aussi depuis très longtemps, que j'écoute et que j'admire depuis que je l'ai entendu pour la première fois, qui a vraiment une façon d'aborder la musique très personnelle,
oui.
Et formidable.
Oui, mais on parlait de Coltrane tout de suite, là. Bon, ça fait partie de...
Oui, c'est...
Ouais. Oui,
oui. Ça fait partie de ses influences, bien sûr.
Enfin, c'est pas... C'est assez naturel, hein.
Oui.
Donc, David Elmalek, qu'on entendra au saxophone ce soir.
Voilà, avec qui j'ai joué, moi, dans le groupe de Pierre de Bettman aussi.
Oui.
Dans les années 2000.
Oui.
Premier album de Pierre de Bettman avec David Elmalek en 2000, Ilium. Mm-hmm. Donc voilà, David, on le connaît depuis longtemps avec Diego aussi.
Oui. Donc, oui, nos auditeurs auront bien compris que c'est pas un quartet c'est pas une rencontre de hasard pour ce quartet. C'est des gens qui se connaissent bien depuis longtemps, voilà. Qui s'apprécient et qui savent jouer, enfin, trouvent du plaisir à jouer ensemble.
Voilà. Tout à fait,
oui. Oui. Et puis quant à Gomari,
le petit dernier.
Oui, le petit dernier.
Donc il est plus jeune que nous. Moi je l'ai rencontré alors qu'il était encore étudiant. On faisait un stage de contrebasse à Lisieux dans le Calvados.
Oui.
Et il était élève. Et puis après il a fait le CNSM et comme ça je l'ai repéré. Et puis après en discutant quand il a fallu penser à quelqu'un pour remplacer Alexandre, son nom est sorti et on a joué une fois ensemble et ça s'est très bien passé.
Et ça s'est bien passé. D'ailleurs, on va l'entendre. On sent que il a intégré le quartet sans aucune difficulté. Hein.
Oui, aucune difficulté. Oui.
C'est.
Et tout à l'heure, quand on parlait du quartet sans instrument harmonique avec une plus grande liberté, c'est pas parce qu'il y a une plus grande liberté que le cadre est moins rigide. Il y a toujours un cadre harmonique très très précis.
Oui.
Mais à l'intérieur de ça, on peut faire des. On peut se permettre plus de choses.
Oui.
Voilà.
Oui. Oui. La liberté, c'est.
Liberté surveillée. Non, pas surveillée.
Non, pas surveillée. Oh, surveillée, c'est peut-être un. C'est un vilain mot, ça.
C'est un vilain
encadré.
Mot.
Oui.
Encadré.
Oui, mais même encadré, c'est pas. Comment pourrait-on dire? Moi, je dirais liberté.
Fraternité,
oui. Oui, bah oui, il y a de ça. Hein. Bon, il y a aussi égalité, d'ailleurs. Voilà. Mm-hmm. Voilà.
Oui, bien sûr. Ça, c'est
on a les trois, finalement.
Ça, c'est important.
Oui, oui. Allô, bas.
Oui.
Allez, allô, bas. voilà, c'est à l'aube. Bon, c'est un bel exemple de ce qu'on disait à l'instant sur la liberté. Hein.
Oui.
Oui.
Oui. Oui. Tout à fait.
Je trouve que c'est une belle illustration de ce propos sur la liberté, mais aussi sur la. Comment dirais-je, l'entente de ce quartet qui est perceptible. Je pense que même un non-spécialiste doit pouvoir entendre ça, n'est-ce pas? Je sais pas.
On l'espère. Le dialogue, ouais. le dialogue permanent à quatre.
Oui.
Une liberté joyeuse.
Oui, oui, c'est effectivement plutôt joyeux. Hein.
Le morceau le plus joyeux du disque.
Oui, oui. Bon, Proust n'est pas forcément toujours tout le temps joyeux.
Proust n'était pas béni quand même. Hein.
Quand même. Hein. Bon, il y a d'autres titres évoquant Proust. Hein. Mais tout le répertoire, derrière chaque titre, il y a une idée proustienne.
Pas forcément, c'est l'ensemble qui est... Enfin, dans le processus d'écriture, j'ai écrit tous les morceaux dans un laps de temps assez court.
Oui.
Donc, en fait, j'étais encore imprégné de l'univers de Marcel Proust. Mais il n'y a pas de correspondance forcément précise dans tous les morceaux, sauf la Madeleine. C'est vraiment
sauf la Madeleine.
Le seul, il y a des morceaux un peu introspectifs où... Ouais. Où c'est plus la recherche, justement, il y a un morceau qui s'appelle La Recherche.
On
se tourne vers l'intérieur.
Il y en a un autre dont je me souviens, c'est Combray.
Mmh, bien sûr.
Oui. Bon, quand même, ça serait intéressant de savoir s'il y a beaucoup de lecteurs de Proust qui vont écouter cet album ou des gens qui vont écouter cet album qui vont lire Proust.
Ça, il faudrait.
Bon, j'avoue que j'ai pas encore tenté l'expérience de lire Proust en vous écoutant. Mais
moi, j'arrive pas à écouter de la musique en lisant.
Ah non, c'est difficile. Ouais. Hein, ou de l'écouter et puis de se dire, bah tiens, je vais lire. Ou en sens inverse, comme vous l'avez fait. Hein. Mmh. Alors, ce quartet, il a un avenir.
J'espère.
Oui, non, oui, on l'espère, mais il y a une suite prévue.
Pas pour l'instant.
Oui.
Pas pour l'instant. Là, pour l'instant, on essaye de jouer, de faire des concerts.
Oui.
Donc, on remercie le NJP de nous avoir invités pour ce soir.
Oui.
Et puis, il y a des dates qui sont prévues en début d'année prochaine.
Oui.
Et j'espère qu'on fera des festivals l'année prochaine, l'été prochain.
Oui, et puis vous n'avez pas épuisé la recherche du temps perdu.
Non, non, non. Et puis, après, peut-être que je me remettrai à écrire pour refaire un opus.
Oui, ou trouver un autre... Une autre source de...
Oui, une autre source d'inspiration.
Une autre source d'inspiration. Pourra
être autre, la peinture.
Ah, oui, bien sûr.
On est, on est traversé par tout ce qu'on fait.
Oui.
Et après, on le restitue. Alors,
pendant que vous lisiez Proust, pendant le confinement, c'est formidable le confinement parce que ça a donné des idées à beaucoup de gens. Hein.
Mmh.
Vous entendiez la musique en le lisant. Enfin, je n'ai pas dit écouter.
Pas,
hein.
pas du tout.
Pas du tout. Il n'y a pas de synesthésie.
Non.
C'est venu après.
C'est venu après quand
la lecture. Quand vous avez fini la lecture du...
J'ai pas été au bout de la recherche. Mais quand je finissais la lecture.
Ça me rassure parce que c'est pas forcément évident de faire ça. Oui.
Mais non, c'est plus un climat.
Oui.
Et une ambiance qui m'est restée et qui m'a inspiré pour écrire les morceaux.
Oui. Oui, alors ça serait effectivement intéressant de savoir si ça peut inspirer la lecture après avoir écouté votre musique.
Mmh.
Oui, bon, peut-être ça, oui.
Et l'inverse existe aussi, il y a des écrivains qui écoutent de la musique et qui après écrivent.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc ça peut aller dans les deux sens, où on peut s'imprégner d'un tableau et après écrire ou composer.
Oui. Oh, puis je parlais de synesthésie, il y a des gens qui entendent la musique en lisant. Hein.
Mmh.
Oui.
C'est vrai.
Oui. Bon. Oui. Des projets à part ça? D'autres projets? Franck Aguilon?
On a quelques dates avec Diego là, en début d'année prochaine. J'ai enregistré un disque avec Vincent Bidal qui s'appelle Noladic, avec lequel on joue un petit peu cette année. On va enregistrer le mois prochain avec Frank Voigt, un pianiste aussi, un disque en duo.
Mmh.
Avec Lucienne Renaudin-Vary, aussi une jeune trompettiste qui vient du monde classique, avec qui on enregistre avec Vincent Bourgeix, Thomas Bramery et Hugo Lippi, en début de l'année prochaine. Et quelques autres projets d'enregistrement aussi, incessamment sous peu.
Très bien, très bien. Bah, écoutez, Je vous souhaite, et je nous souhaite à tous un très très beau concert. Je pense que ça va être vraiment très bien. Et puis, on entendra peut-être un peu Proust ce soir.
Bien, je l'espère.
Grâce à vous. En tout cas, on entendra La Liberté.
Voilà.
Et ça, on en a bien besoin. Et puis le reste aussi, la fraternité aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Franck Aguillon, Diego Haber. Très très beau concert.
Et à tout à l'heure.
Et à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Sûr.
Merci beaucoup.
Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN, en direct du théâtre de la Manufacture de Nancy.
Alors, eh bien, nous poursuivons la soirée à la Manufacture, la dernière soirée de ce NJP. Ne partez pas tout de suite, Diego Humbert, je voudrais qu'on fasse une photo avec vous. Mais j'ai le plaisir d'accueillir le trio de Marc Prior, le pianiste, et qu'on va entendre tout de suite un peu. Dans la soirée, bientôt, ben, ça va bientôt commencer. Je ne sais pas s'il y a encore des places libres, si vous avez envie de venir voir ce dernier beau concert de NJP, venez à la Manufacture, les écouter. Je propose, Marc Prior, que j'avais envie de vous écouter, non pas dans l'album le plus récent, mais dans un précédent album dans lequel vous étiez en solo. Et pendant qu'on fait la photo avec Diego Humbert et Franck Aguillon, je vous propose qu'on écoute quelque chose qui me plaît bien, c'est Carolina Schott. Carolina Schott, ça vient d'un album qui s'appelle The Many Facets of the Day.
Oui, c'est ça. Exactement.
Bonsoir, Marc Prior. Marc Prior, pianiste, on va en parler. Et vous êtes ici avec les deux autres membres de votre trio. Juan Villarroel. Qui est contrebassiste, bonsoir.
Oui, c'est ça.
Et puis Élie Martin Charrière, batteur.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc on a le trio complet. je vous entendais tout à l'heure vaguement dans l'escalier.
Ah oui.
Je connais votre récent album, qui s'appelle Initio.
Exactement.
Hein, ouais. Qui est paru il y a très peu de temps. Hein.
En fait, on va fêter son anniversaire dans quelques jours. Il est sorti le 27 octobre dernier.
Dernier, oui.
Voilà, donc
oui.
Il y a presque un an.
Il y a presque un an déjà, le temps passe.
Ouais.
Et c'est le répertoire que vous allez nous présenter ce soir.
Alors oui, c'est un peu spécial parce qu'on est sur la fin d'une tournée. On a fait 10 concerts déjà ce mois-ci avec ce trio.
Oui.
Donc c'était l'occasion d'essayer des nouveaux morceaux.
Oui.
Donc, il y a les morceaux d'initiaux et on va aussi vous jouer des exclusivités ce soir.
Les exclusivités qui seront dans le prochain album.
Exactement.
Oh, c'est formidable. Formidable. Alors, c'est la première fois que vous venez jouer à Nancy ?
Oui.
Oui.
Exactement. Et j'ai une petite confidence à vous faire. Je suis né à Nancy.
Ah !
Et je le sais parce que je le sais, mais en fait, je ne suis jamais allé à Nancy. C'est après.
Ah oui,
à part ma naissance.
Voilà, mais la ville natale, vous n'avez pas de souvenirs, vous avez quitté Nancy très jeune.
Oui, à un an, je crois. Donc.
Oui. Et alors, vous avez. Parlons un peu de votre histoire. Vous n'êtes pas si vieux que ça, mais vous avez déjà pas mal de choses derrière vous sur le plan musical.
J'ai eu la chance de rencontrer des musiciens exceptionnels, notamment Élie et Juan.
Oui.
On s'est croisés sur plein de groupes différents, celui de Robinson, celui de...
De Robinson Coury, le tromboniste.
Exactement, de Pamina Béroff.
Oui.
Et encore d'autres projets. Et donc, oui, c'est un bonheur de jouer ensemble et de faire chacun un peu son petit bonhomme de chemin et de se retrouver finalement tous les trois autour de ce répertoire.
Donc vous vous connaissez depuis longtemps ?
Avec Marc, on se connaît déjà depuis 8 ans.
Oui.
Et avec Ellie, à peu près pareil, 8 ans aussi.
Oui, on s'est rencontrés tous les trois au CNSM à Paris au même moment, mais Marc et moi, on s'est rencontrés à Lyon, je pense, il y a...
Presque 11 ans.
Presque ça, ouais, peut-être. On n'avait jamais joué ensemble avant de vraiment se rencontrer à Paris. Quand je suis sorti du conservatoire du CNSM, il y rentrait. On s'était rencontrés avec Juan avant.
Quand je venais d'arriver en France.
Oui.
Et
en venant d'où ?
Du Chili.
Du Chili. Mm-hmm.
Et donc là, on s'est rencontrés d'abord avec Ellie, l'année suivante avec Marc. Et c'était génial parce qu'on n'était pas du tout dans les mêmes promotions. Mais par contre, il y a eu de l'affinité musicale très rapidement et on a commencé à faire des petites sessions, se rencontrer.
Oui. Donc on va avoir de la chance ce soir parce qu'on va avoir deux groupes différents évidemment, mais de gens qui s'entendent bien, qui se connaissent bien et qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors cet album Initio, le titre ?
Oui, Initio, exactement. Oui. Le fait de commencer quelque chose, de se mouvoir aussi, Initio, ça raconte le début d'une aventure, donc du trio, le début aussi d'une aventure avec Jazz Eleven, le label,
oui.
Mais aussi un retour en arrière, parce que l'idée de cet album, c'était de faire des liens entre le jazz, le trio jazz et les trios qu'on connaît très bien d'Anthologie, Ahmad Jamal, Dave Brubeck, etc., Oscar Peterson, mais aussi de ramener... quelque chose qui m'a beaucoup touché quand j'étais très jeune, c'était la musique baroque.
Oui.
Mes parents ne sont pas spécialement musiciens, mais ils écoutaient beaucoup de musique baroque.
Oui.
Et donc j'ai voulu créer un lien entre la musique baroque et le jazz. Voilà, oui. C'est ça le projet de cet album. De manière discrète, on ne voulait pas faire des hommages directs, mais donc Initio, c'est aussi un retour à des connexions, parce que le jazz, c'est très proche de la musique baroque.
Oui, alors effectivement Je suis pas le dernier à le penser, effectivement, des affinités du jazz avec la musique baroque, je suis pas musicien moi-même, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui, il y a une connexion qui se fait entre le jazz et la musique baroque, enfin assez souvent en tout cas, voilà. Alors vous le disiez à l'instant, votre album a été enregistré sur le label Jazz Eleven, c'est le label du pianiste Giovanni Mirabassi.
Exactement.
Que nous avions le plaisir de recevoir ici même il y a quelques jours.
Et oui.
Oui, mais vous connaissez bien Giovanni Mirabassi.
Là, on se connaît bien, oui. Là, maintenant, on se voit quand même assez régulièrement. Moi, j'étais déjà très admiratif de son jeu, beaucoup marqué aussi. Et le fait qu'il nous propose une signature pour ce trio, c'était un honneur. C'était avec beaucoup de gratitude.
Oui. C'est un grand monsieur. Hein.
Oui, bien sûr. Oui. Et aussi, on est, je pense, finalement assez proches dans notre manière de vouloir raconter des histoires.
Oui.
Et donc, moi, vu que j'étais très influencé par lui, voilà, ça ressort aussi dans cette musique. Et je pense que, du coup, c'est un bonheur d'avoir un directeur artistique qui est un peu dans la même direction que celle du trio.
Oui. La musique baroque, ça vous parle aussi, ça vous parlait aussi à tous les deux ?
Oui, moi, je crois que j'ai toujours écouté aussi. Je ne sais pas pourquoi, parce que dans ma famille, on n'écoutait pas du tout ça, mais je crois que c'était une des premières choses que j'ai aimé dans la musique classique.
Oui.
Ensuite, en arrivant au conservatoire, on a eu des rencontres aussi des musiciens classiques et même des cours qui allaient un peu dans cette direction. Donc, quelque part, quand on est arrivé à cet album, on n'était pas étranger de ce monde. Et je ne sais pas, en tant que section rythmique, c'est une autre manière d'aborder du coup la musique. Le rythme, c'est une vision de l'harmonie, de la mélodie qu'il faut garder.
Oui. Et Élie Martin Charrière, alors bon, s'il y a quelque chose qui est... La batterie, c'est pas très fréquent dans la musique baroque.
Mais c'est vrai, mais moi, en fait, j'ai carrément un parcours à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai découvert la musique baroque que très récemment.
Oui.
Enfin, Non, je savais à quoi ça pouvait ressembler et quels étaient quelques grands compositeurs, mais je n'en écoutais pas. Et en fait, j'ai eu la chance de travailler avec un super chef d'orchestre et arrangeur et organiste qui s'appelle Simon-Pierre Bestion à Paris. Et je travaille toujours avec eux et en fait, il fait des arrangements de grandes œuvres de compositeurs de musique ancienne et musique baroque. J'ai découvert plein d'instruments et en fait, on rajoute de la batterie par-dessus. Et c'est un truc de fou. C'est trop bien.
Pour un grand plaisir.
Ouais, alors c'est comme dit Juan, c'est une approche du rythme ultra différente. Mais en fait, au bout d'un moment, on parle le même langage qui sont les phrases. En fait, le phrasé logique qu'on retrouve dans la musique de Marc aussi, où tout est de l'eau, parce qu'en fait, c'est normal que ça ruisselle ici ou là, parce que c'est construit d'une manière qui, en tout cas, nous semble très très logique.
Oui. Alors. Marc Prieur, on vient de parler de la musique baroque. Ben vous avez cité vous-même quelques grands, très grands noms du piano. Et ben on va vous écouter un petit peu, si vous voulez bien. Okay. Extrait donc de cet album Initio, Escale.
Escale.
Escale. Escale, on faisait escale, où faisions-nous escale?
On faisait une escale entre plusieurs endroits dans l'album qui étaient parfois un peu plus calmes, un peu plus romantiques, un peu plus aériens. Et donc l'idée c'était de revenir un petit peu au jazz, vraiment c'est le morceau jazz de l'album qui est une référence directe à McCoy Tyner et
oui.
et Chick Corea. Voilà.
Et oui, bon. encore deux qu'on n'avait pas cités tout à l'heure. Bon, c'est un beau panthéon, n'est-ce pas? Bon, on avait commencé par Carré des Nachottes, un classique, bon, du jazz déjà un petit peu ancien, et puis bon, vous ne vous refusez rien.
Je pense que j'ai une nature curieuse. J'ai toujours aimé comprendre les choses et donc aussi revenir un peu aux origines.
Oui.
Et donc voilà, c'est vrai que j'aime bien regarder un peu plein de choses différentes et les essayer.
Oui. Alors pendant qu'on écoutait cet extrait de votre album, là, je vous disais que j'étais sensible à la qualité de la prise de son. Vous avez enregistré dans de bonnes conditions, apparemment.
Oui, c'était Studio Besco.
Oui.
Avec Arthur Gouret.
Oui.
Et ingénieur incroyable. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que tu vas demander quelque chose, c'est déjà fait.
Oui.
C'est une espèce de magie qu'il a. Et tu vas lui demander, ah non, mais c'est déjà fait. Ok, bah merci. Oui. Tu n'as rien à dire.
Oui.
Et il le fait toujours. Super bien, c'est incroyable. Grand des compliments pour Arthur s'il nous écoute. Mais...
On aime très fort.
Très très fort.
Alors, on a parlé tout à l'heure, on a cité en particulier votre collaboration avec Robinson Coury, le tromboniste, et sans doute beaucoup d'autres. Juan Villarroel, vous avez eu l'occasion de jouer avec d'autres...
Oui, dans la scène parisienne, je participe avec des projets qui sont relatifs au jazz, oui. Et aussi un peu moins, enfin plus de musique actuelle aussi.
Oui.
Mais dans le jazz, oui, effectivement, j'accompagne Pamina Béroff. On joue avec Marc aussi dans le projet de Mohamed Abouzekri, excellent oudiste, au joueur de oud.
Oui. Oudiste, oui.
Oui. Et puis aussi je, avec Cyril Aimé quand elle passe en Europe.
Ah, avec la chanteuse
oui,
Cyril Aimé.
C'est ça. Oui. Aussi d'autres projets issus du CNSM comme Fustige, etc.
Bon, enfin, vous n'êtes pas inactif.
Non, j'ai beaucoup de travail.
Et Martin Charrière, batterie, alors vous aussi vous jouez dans différentes circonstances.
Différentes circonstances, plutôt actif aussi. Là, récemment, le prochain disque de Pierrick Pédron qui sortira dans quelques semaines, avec le quartet avec lequel on n'avait pas enregistré encore, mais du coup c'est fait, avec Thomas Bramery, Karl-Henri Morisset et Pierrick. Donc avec ça, on va jouer pas mal bientôt. Je joue aussi avec Noé Clerc, qui est un accordéoniste incroyable. On a fait une tournée en Indonésie cet été, c'était génial, c'est un trio génial. Et bon, là j'ai le cerveau un petit peu free, mais je vais lancer aussi mon projet, un album qui va sortir en décembre, et ça fera partie de mon activité aussi. Enregistré par Arthur Gouret aussi.
Ah, aussi, bon. Voilà. Bon, donc... pas mal de projets les uns et les autres, bien sûr. Alors on va revenir un petit peu au baroque. J'avais envie qu'on écoute quelques instants de Orphée Eurydice de Gluck.
Et en fait, hommage à Monteverdi, en réalité.
C'est pas celui de Gluck.
Non, c'est l'Orfeo de Monteverdi. Pourquoi ? Parce que c'est l'œuvre qui est considérée comme la première œuvre baroque.
Oui.
Et c'est pour ça que j'ai décidé que ça serait la première œuvre de l'album.
D'accord. Donc, Orphée et Eurydice, le baroque. Thank you. Orphée Eurydice, alors il faut préciser, vous venez de me le dire, il faut préciser acte 4.
Acte 4, oui, c'est une référence du coup directe à l'Orphée de Monteverdi. Pourquoi ? Parce que l'acte 4 raconte la remontée des enfers de Orphée Eurydice.
Oui.
Et donc nous on voulait raconter spécifiquement ce passage. Il y a un moment où effectivement il y a un solo de piano qui sort, c'est le moment où Orphée se retourne pour lui raconter à Eurydice toute l'histoire. Donc c'est vraiment une pièce assez narrative en fait.
Oui. Oui. Alors, je vous disais aussi à l'instant que ça avait un caractère répétitif, très, très moderne finalement. Hein. C'est...
Oui, alors c'est vrai que ça vient de deux endroits. Effectivement, du coup, on écoute nous-mêmes beaucoup de musiques différentes, y compris de la musique répétitive. Moi, ça me touche beaucoup, j'ai beaucoup écouté ça. Et en fait, je retrouve aussi un petit peu dans la musique baroque des passages très répétitifs, très longs. Donc l'idée, c'est un peu de rallier un peu les deux, voilà. Avec le jazz au milieu. Et donc c'était un peu, Orphée Eurydice définit un petit peu la direction artistique de l'album, c'est-à-dire c'est de tirer un peu les ficelles de chaque endroit et de créer des liens un peu entre tout ça.
Oui.
Et, d'essayer en tout cas.
Et ça marche, ça marche. Le baroque, le jazz... Steve Reich, Phil Glass, comme vous voulez. Mais ça marche très bien. J'imagine qu'on a du plaisir à faire ça.
Bah, c'est un plaisir de tous les jours, hein, avec Juan et Eli.
C'était assez naturel une fois que Marc a eu l'idée de la composition.
Oui.
Parce qu'il a, enfin, il a composé de A à Z. Mais quand il est arrivé en répète, il n'avait pas de partition. Et ce qui n'est pas courant, parce que souvent on compose de cette manière-là, mais... Enfin, on répète de cette manière-là, mais la marque qui nous a appris tout par cœur, parce qu'il fallait pour le morceau, pour le bien-être du morceau.
Oui.
Et c'était très chouette comme expérience, parce que du coup, le morceau s'est devenu quelque chose de naturel pour nous immédiatement, au bout d'un jour.
Oui. Voilà. Oui, mais c'est un côté. Bon, alors, bon, c'est composé évidemment, mais on sent un côté assez spontané, assez naturel.
C'est vraiment ce que j'avais, enfin l'idée de cet album, c'est quand même la liberté et le jazz, initiaux, commencer des choses, et cette musique-là, elle n'existe pas sans Eli spécifiquement et Juan spécifiquement, c'est-à-dire c'est vraiment une rencontre de trois musiciens,
oui.
Et donc ils ont leur part de composition dans ces morceaux, c'est-à-dire c'est des morceaux qui ont évolué avec le temps, avec leur son, avec leur manière de jouer. Donc, et encore aujourd'hui sur scène, là on va jouer dans à peu près une heure, en fait on ne sait pas exactement ce qu'on va jouer.
Oui.
C'est une nouvelle aventure à chaque fois.
Oui.
Et c'est ça qui nous maintient, on va dire, en lien et en excitation,
oui,
de monter sur scène.
Et qui maintient l'auditeur en haleine.
Peut-être.
Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Bon, bah, écoutez messieurs, on va terminer cette émission en écoutant un autre extrait. Je proposais Rouge Gorge. Hein. En tout cas, merci à vous, merci beaucoup,
merci.
De nous avoir consacré quelques instants et quelques
plaisir.
Explications intéressantes au sujet de ce je le redis, ce très très bel album.
Merci beaucoup.
Bon, je pense qu'on va prendre bien du plaisir en votre compagnie tout à l'heure.
Merci
beaucoup. Et puis, bon, on aura certainement l'occasion de se revoir dans d'autres occasions.
Bien sûr.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup et très très beau concert.
Merci.
Rouge Gorge.
Merci.